Europe 1. Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, pas de forfait à Mediapolis. Tout le monde est là pour une émission en direct, puisque nous sommes samedi et que Mediapolis est l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassède. Et avec nous aujourd'hui, une très grande journaliste et écrivain, Marion van Rentergem, et un très bon sondeur, Frédéric Dabi. Autrement dit, deux regards totalement différents et complémentaires sur l'actualité en général et l'Europe en particulier. Et on commence avec Monsieur Canteloup.
Dany Cohn-Bendit est avec nous maintenant. Bonjour Dany.
Bonjour Thomas. Salut les autres. Salut. Voilà. Ouais, je me représente. Dany Cohn-Bendit, ok. Pompier secouriste pour campagne qui fait un malaise. Voilà. Je suis aussi dépanneur en charisme pour Nathalie Loiseau.
Bah écoutez, vous tombez bien parce que ça ne va pas fort hein, pour Nathalie Loiseau.
Ah ben bah, tu l'as dit, Bouffi. Ah ben bah, ouais, mais attends, bah, elle a un petit coup de mou, Loiseau. Voilà. Hein, comme dirait Cabrol, elle a un petit coup dans l'aile, l'oiseau. Oh. Tu sais, attends, Julie. Attends, Wendy, écoutez. Ça, Céline. Tu sais comment on l'appelle entre nous, la Nathalie?
Ben non.
Nathalie l'autruche, le seul oiseau qui décolle pas.
Oh, là, là, là. Hier, vous étiez sur la scène de Gobineau pour parler des élections européennes, mais il n'y avait pas la tête de liste, Nathalie l'oiseau, justement.
Ouais, mais de toute façon, qu'elle soit là ou pas, vu son charisme, ça change pas grand-chose. Non, mais non, bah, écoutez, soyez réalistes, imagine l'horreur. Ce soir, tête d'affiche à Bobineau, Nathalie Loiseau. On faisait quoi? Trois payants? Non, la Nathalie Loiseau, elle a une tête de Brexit. Tu la vois, tu veux quitter l'Europe.
Bah, déjà que ces élections européennes ne passionnent pas grand monde, ça promet. Hein.
Non, mais attends, il le cherche aussi. 33 listes, il a dit à Paty, 33 candidats. Et que de la deuxième division, Dion, oui, Dion. On peut s'abonner à 9h du matin, merde. Hein, alors, la deuxième division, c'est quoi? T'as Loiseau, Bardella, Bellamy, Glucksmann, Philippot, on a mis que les ringards.
C'était Nicolas Canteloup, mardi matin sur Europe 1. Alors, question. Monsieur Dabi, vous qui connaissez un peu le monde politique, comment expliquez-vous qu'ils aient commis l'erreur incontestable de choisir Nathalie Loiseau comme tête de liste alors qu'il suffisait de lui faire 3 minutes de tentative d'entretien télévisé factice pour s'apercevoir que son charisme était inexistant et qu'on n'aurait que des ennuis?
Vous êtes sévère, Olivier. Je serais un petit peu moins que vous, pas par rapport à Nathalie Loiseau en tant que telle, mais par rapport à ce qu'est une élection européenne. C'est d'abord c'est avant tout un vote de marque ou d'étiquette partisane. Par contre, il y a un vrai paradoxe. C'est la première fois depuis 20 ans qu'il n'y a qu'une seule circonscription, c'est la France. Depuis 2004, aux élections européennes passées, il y avait des circonscriptions et donc le poids de la tête de liste comptait un petit peu moins. Là, il n'y a qu'une seule circonscription, une circonscription nationale, et normalement, traditionnellement, les partis auraient dû mettre des personnes qui auraient pu entraîner la liste, jouer sur l'incarnation et bénéficier d'une prime. Ce n'est pas le cas. Quand on regarde toutes les têtes de liste, et pas seulement Nathalie Loiseau, enfin laquelle se cristallise beaucoup de critiques médiatiques, qui ne se concrétisent pas dans nos enquêtes d'intention de vote, puisque dans la dernière période, En Marche est remontée et repassée devant le Rassemblement national, nous avons, à l'exception de Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon, des candidats connus par tous les Français du fait de leur passé de présidentiable, des candidats, des têtes de liste, peu connus, voire complètement inconnus. C'est ce qui me fait nuancer tous les discours sur la catastrophe industrielle, entre guillemets, Nathalie Loiseau. C'est vrai qu'il y a eu quelques bourdes, c'est vrai qu'elle n'entraîne pas la liste comme elle devrait l'entraîner, mais lorsque les électeurs votent pour La République En Marche, ils ne votent pas Loiseau. Ils votent plutôt pour le parti présidentiel et pour Nicolas, pour Emmanuel Macron.
Mais d'abord, premièrement, vous dites que je suis sévère, mais ma sévérité ne visait pas Nathalie Loiseau, pour laquelle j'ai une très grande estime par ailleurs. Mais
le choix.
Il y a des gens qui ont très bonne estime, mais il ne faut pas les mettre dans des postes qui ne conviennent pas. C'est plutôt ceux qui ont choisi. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que la tête de liste, même si ça ne compte que pour 1, 2, 3 points, ça compte.
Et oui, ça compte.
Je pourrais vous démontrer que c'est parce que c'était Bernard Tapie que la liste Tapie a fait 14% en 1994. Que c'est parce que c'était Daniel Cohn-Bendit que la liste des Verts a fait 16% en 2009, etc. Donc, c'est pas vrai dire que ça compte pas la tête de liste.
Je n'ai pas dit, que ça, Olivier, que ça ne comptait pas. Je dis que ça compte moins dans un univers concurrentiel où aucun parti n'a fait le choix de mettre une tête de liste connue par tous les Français et capable de créer ce véritable entraînement, comme Bernard Tapie par le passé, où d'ailleurs c'était la seule élection où le taux d'abstention avait très fortement baissé parce qu'il y avait des catégories populaires qui avaient choisi Bernard Tapie, ou Daniel Cohn-Bendit en 99. Je minimise seulement la portée de l'erreur stratégique de La République En Marche, mais clairement, c'est vrai qu'il y a une mauvaise musique autour d'elle et de son incarnation de la liste.
Et vous, vous Marion, j'ai bien prononcé votre mot, Van Rantergem. Je pourrais dire Varenne pour simplifier.
Ah, mais oui, dire Varenne, mais là, c'est quelques initiés qui comprendront voilà. que c'est mon père qui avait francisé son nom en Varenne. Je me suis appelée Varenne pendant 18 ans de ma vie.
Oui. Et vous avez décidé de repasser à...
Parce qu'en effet, il était belge, complexé d'être belge, et il avait simplifié ce nom très compliqué et complexant pour lui, et pour moi aussi d'ailleurs, en Varenne, comme il était prof d'histoire. Et je l'ai porté toute ma scolarité jusqu'à ce que je reçoive un chèque au nom de Varenne que je ne pouvais pas encaisser. Je me suis dit, c'est tellement compliqué d'expliquer que je ne m'appelle pas comme ça, etc. J'ai repris mon nom d'origine.
D'accord.
Enfin, en tout cas, pour parler
est-ce
de...
Est-ce que vous pensez qu'elle a un vrai déficit de charisme?
Oui, je pense qu'elle est objectivement pas bonne. Maintenant, je pense que c'est vrai, je suis assez d'accord avec Frédéric, c'est un peu un leurre dans la mesure où ça ne trompe personne que c'est la liste d'Emmanuel Macron, et lui-même l'a un peu entériné quand il s'est opposé nommément récemment à la liste Rassemblement National. Il incarne, il a pris la position d'incarner cette liste, et du coup d'ailleurs ce qui est un peu gênant, enfin, c'est que de nouveau on oublie un peu l'élection européenne, on refait le deuxième tour de l'élection présidentielle, on se retrouve avec un duel Macron-Le Pen.
On va y revenir, mais franchement, votre façon d'être gentil et d'atténuer et tout ça, à mon avis, est absolument pas pertinente, parce que dans la mesure même...
Sympa.
Non, mais comme vous allez
être d'accord... Vous voulez vraiment l'enfoncer.
Vous allez être d'accord sur tout, comptez sur moi pour secouer un peu.
Vous n'en savez rien.
À partir du moment où vous, dites que l'enjeu principal, et Dieu sait qu'on va y revenir, que l'enjeu principal, c'est de savoir qui arrive en tête entre la liste Rassemblement National et la liste LREM, et ben, si ça compte que 2-3 points, excusez-moi, mais c'est tout à fait décisif. C'est tout à fait décisif. Donc, c'est pas. Donc, votre défense.
Non, mais ce qui est clair, c'est que.
Mais ce qui compte, c'est que c'est un vote Macron. Oui, mais sauf que si ça le fait perdre.
Ce qui est clair, c'est que si Danny Cohn-Bendit avait accepté d'être tête de liste, on n'en serait pas là. Je pense que REM et le.
Je nuancerais ça aussi.
Et le Rassemblement National ne serait pas au bot à bot. Et puis maintenant, avec un avantage certain pour le Rassemblement National, parce que qui est Macron étant vampirisé par la liste Bellamy, hein, qui prend de l'essor. Je pense que si Danny Cohn-Bendit, qui a quand même une puissance de charisme et de. Dans
sûr.
Les meetings, on le voit, une puissance entraînante sur l'Europe, on n'en serait pas là.
Je vais vous faire une confidence, parce que c'est un vieil ami à moi et de longue date, Danny Cohn-Bendit, on a beaucoup de complicité. Et j'ai essayé très longuement de le convaincre d'être candidat, même en lui disant, et après, tu peux créer un grand groupe central, tu es à peu près le seul capable de bousculer les lignes comme ça. Et alors, il me donnait des arguments les uns après les autres, et puis à chaque fois, je contrais les arguments. Et puis à la fin, il me dit, mais j'ai pas envie.
J'ai dit, ah, là, il faut avoir l'envie.
Là, je connais pas beaucoup d'hommes, entre guillemets, politiques, qu'ils soient capables, quand on leur dit va à quelque part, tu vas être tête de liste, tu vas faire un beau score, tu vas pouvoir bousculer les lignes, ils répondent oui, mais j'ai pas envie.
C'est ce qui fait comme ça. C'est ce qu'il a fait refuser d'être ministre aussi, d'ailleurs.
Ouais,
je nuancerai un tout petit peu ce que Marion vient de dire.
Ah, alors, si vous osez nuancer un tout petit peu,
on va se fâcher.
On amorce le commencement d'un débat.
Vous allez être content. Non, on imagine Daniel Cohn-Bendit, tête de liste, La République En Marche. Ça annihilerait, ça aurait gêné un des leviers du vote En Marche, la capacité de cette liste à mordre de manière très significative, voire parfois spectaculaire, sur la droite. Dans notre rolling d'IFOP fiducial d'hier, un quart des électeurs Fillon de l'élection présidentielle, ça fait quand même 5 points, choisissent La République En Marche. et pas la liste de François-Xavier Bellamy. Bien sûr, ça aurait gêné considérablement le bloc de gauche qui est éparpillé, divisé, aucune liste n'atteignant 10%.
Jadot et Glucksmann aurait été réduit au petit pourcent, je
bien
pense.
Sûr, avec bien sûr, mais tête de quand même, quand on regarde l'histoire du quinquennat, c'est quand même un tournant sur la droite qu'incarnait moins
Daniel Cohn-Bendit. On va quand même pas faire toute l'émission sur quel score aurait fait Daniel Cohn-Bendit.
C'est vous qui avez lancé cette hypothèse, mon cher Olivier.
Non, c'est pas moi, c'est Marion, excusez-moi.
Bon, alors je
vous... Non, mais vous suivez l'émission ou pas ?
J'essaye.
Oui, alors vous allez nous dire, est-ce que les programmes jouent un rôle important ? Et est-ce que, par exemple, la révélation cette semaine du programme de La République En Marche, avec 79 propositions, dont 14 prioritaires, si je me souviens bien, c'est quelque chose d'important ou pas ? Vous nous répondez dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
Le samedi de 10h à 11h, on vous retrouve, Olivier Duhamel, avec Mediapolis. Et ce matin, vous êtes accompagné de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage l'IFOP, et Marion Van Rintergem, journaliste et auteur de Mon Europe, Je t'aime moi non plus, chez Stock.
Absolument, Marion Van Rintergem, mais avec un seul T. Bon, alors, le programme de LREM, ils ont choisi de le faire vert, vert, vert. Écoutez ce qu'en dit Jean-Rémy Baudot, journaliste à Europe 1, jeudi.
Il y a ensuite un risque, celui de voir filer une partie des électeurs macronistes soucieux des questions environnementales vers la liste écologiste de Yannick Jadot. C'est la crainte de nombreux cadres LREM. L'un d'entre eux en convient, il y a des passerelles entre nos électorats. D'où la nécessité de mettre le paquet sur l'écologie, promettre de faire de l'Europe une puissance verte. Il n'y a pas de mauvaise raison d'en faire un premier objectif, glisse un candidat.
Alors Frédéric Dabi, est-ce que cette décision de faire un programme vert, vert, vert est une bonne idée, ou est-ce que tout le monde ayant un programme écologique, tout le monde se réclamant de l'écologie, même le Rassemblement National maintenant, ça finit par n'avoir aucune importance?
Oui, ça sera difficile de jouer sur une stratégie de différenciation, car tout le monde parle d'écologie et de questions environnementales dans un contexte où ça devient un des enjeux majeurs pour les Français. C'est vrai qu'il y a une fuite d'une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron de la présidentielle vers Europe Écologie Les Verts. Le programme dans une élection européenne, ce n'est pas quelque chose de majeur. C'est un passage obligé, ça appuie une stratégie de communication, le dévoiler très tôt, le dévoiler très tard comme elle l'a fait le 9 mai. Cela compte quand même moins que cette notion de vote de marque partisane et de vote pour instrumentaliser un soutien ou une sanction vis-à-vis du gouvernement pouvoir. Pour autant, c'est important pour le parti présidentiel de développer une offre programmatique conséquente, variée, même si, clairement, une des raisons pour lesquelles l'abstention est massive à l'élection européenne, c'est que beaucoup de Français qui s'abstiennent, hein, le parti de numéro 1 en France le 26 mai, ça sera le parti de l'abstention, avec entre 20 et 25 millions d'électeurs, c'est le sentiment que ce vote est un vote vain, on est dans une logique de vanité, il ne compte pas et les programmes proposés ne changeront pas le quotidien des Français. À la différence d'une élection municipale où on voit concrètement l'effet des programmes, bien sûr que c'est faux, on voit concrètement l'effet des programmes municipaux sur sa vie et même, et ça fait partie du folklore français, pour l'élection présidentielle où l'élection change la vie. Ce mécanisme n'opère absolument pas pour les élections européennes, ce qui me fait dire que nous sommes sur une logique de passage obligé, de stratégie de communication, plus que sur quelque chose qui va impacter le rapport de force électorale.
Marion Van Rintergem, quand on lit votre livre, on se dit que vous vous intéressez à l'Europe.
Un peu.
Donc aux élections européennes.
Je m'intéresse aussi, c'est une passion plus qu'intellectuelle.
Et vous vous intéressez aux élections européennes.
Oui.
Est-ce que vous avez lu les programmes ?
Pas encore complètement, mais je vais le faire.
Vous allez le faire. Pourquoi ?
Il se trouve que là, j'ai été prise par le livre, la campagne. Pourquoi je vais le faire ? Par intérêt, mais je sais déjà pourquoi je voterai indépendamment des programmes.
Ah, vous avez déjà fixé votre vote ?
Absolument, je ne vous le dirai pas, mais j'ai fixé mon vote.
Non, mais je ne vous le demande pas. Vous avez le droit de dire des choses que je ne vous demande pas, remarquez.
Il y a un enjeu pour moi plus important que les programmes qui se jouent pour ces élections européennes. D'abord, il faut arrêter avec cette idée reçue que les élections européennes n'influent pas sur notre quotidien. Elles sont en première ligne de notre vie quotidienne permanente. Il faut arrêter de cette espèce de... Je deviens maintenant de plus en plus agacée quand j'entends cette musique, cette espèce de disque rayé qui visant à dénigrer l'Union européenne. Il faut quand même rappeler le bilan de l'Union européenne. C'est vrai que c'est imparfait. Bien sûr qu'il y a des tas de choses qui ne marchent pas. Et l'élargissement, notamment, à 28 pays. On sera bientôt 27 si l'Angleterre s'en va. Si l'Angleterre s'en va. La Grande-Bretagne s'en va, ce qui n'est pas du tout sûr.
Le Royaume-Uni, si vous permettez.
Le Royaume-Uni, pardon.
Vous vous reprenez sur l'Angleterre. C'est ni l'Angleterre, ni la Grande-Bretagne. C'est le Royaume-Uni.
Sauf qu'ils vont finir par se retrouver, à mon avis, l'Angleterre. Il n'y aura plus l'Écosse, il n'y aura plus l'Irlande du Nord. Ils vont se retrouver tout seuls sur leur île, comme des crétins. Mais ils l'auront voulu.
Ce sera le UK exit. Oui,
voilà.
Alors.
Donc, petite digression, j'ai un peu perdu le fil de ce qu'on disait.
Non, que c'est l'importance des élections européennes pour l'Europe. Mais justement...
Oui, je rappelais le bilan de l'Union européenne. Il faut rappeler, attendez, je permets, parce qu'on dit toujours ça ne marche pas. C'est quand même le continent, l'ensemble régional, le moins inégalitaire du monde. Il faut arrêter de dire que l'Union européenne ne marche pas, est ultralibérale et pour les riches, etc. C'est le moins inégalitaire du monde. C'est l'ensemble où les normes environnementales sont les plus élevées du monde, où les normes sociales, de protection sociale sont les plus élevées du monde. Il faut arrêter, enfin peut-être à l'exception du Canada, il faut arrêter de dire que ça n'influe pas. La protection des données personnelles, c'est notre vie quotidienne, c'est l'Union européenne, c'est le Parlement qui peut les obtenir.
Donc,
des élections majeures.
Alors supposons que je sois d'accord avec vous, et supposons que donc je veuille voter en ayant comme souci l'Europe, la préservation et le développement de ce que vous venez de résumer. Là, je vois que je peux voter pour la liste Europe Écologie Les Verts, je peux voter pour la liste Place Publique PS, je peux voter pour la liste LREM, et vu ce qu'il dit, Bélamy, je peux même voter pour les Républicains.
Absolument. Mais il y a des choses, il y a des partis pour lesquels vous ne voterez pas. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire.
Et donc, je ne vote pas pour tous les autres. Ça, déjà, je progresse. Ensuite, si je veux que mon vote soit utile, il faut que mes députés pèsent dans un groupe qui compte. Donc ça va me faire enlever Place Publique. Et il ne me reste plus que Jadot, enfin Europe Écologie Les Verts, La République En Marche, Les Républicains. Mais comment je fais pour choisir entre les trois ?
Non, mais déjà, ce qui est intéressant, c'est pourquoi vous éliminez les autres. Et parce que je pense que l'enjeu majeur...
Elle trouve une ruse pour ne pas me répondre. Mais
l'enjeu majeur de ces élections, c'est que pour la première fois au Parlement européen, les partis populistes, nationalistes, populistes, vont entrer en force. Ils ne vont pas obtenir la majorité, évidemment, loin de là. Mais ils vont avoir une force suffisante pour vraiment polluer et empoisonner le Parlement et détruire de l'intérieur cette Union européenne qui apporte tout ce que je viens, et encore, j'en suis loin du compte, ce que je viens de résumer.
Mais c'est
donc
aussi
déjà,
la première fois
ça,
qu'il y aura plus de majorité,
pays,
mais
ça,
c'est
ça...
aussi la première fois que les deux grands partis conservateurs, centre-droit, centre-gauche, PPE, PSE, n'auront pas la majorité absolue, et ils ne pourront pas gouverner avec la grande coalition, d'où l'importance du poids de mon vote sur tel ou tel groupe. Donc, vous allez répondre à ma question, comment je fais pour choisir, si je suis pro-européen, entre ces trois listes, vous allez me répondre, Marion, vous allez me répondre, Frédéric.
Avec plaisir.
Dans
ça
quelques instants.
10h-11h, Mediapolis avec Olivier Duhamel sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui reçoit aujourd'hui la journaliste Marion Van Rettergem et le directeur général adjoint de l'Institut de sondage LIFOP, Frédéric Dabi.
Marion Van Rettergem, très concernée par l'Europe. Frédéric Dabi, très concerné par les élections. Et donc, on se dit que... je me dis, en tout cas, tiens, si cette émission peut aider des électeurs à venir voter d'une part et à choisir d'autre part. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont eurosceptiques, continuez à nous écouter. Mais simplement, sur cette question-là, vous n'avez pas de vrai problème. Vous choisissez la liste que vous voulez. Et puis là, pour le coup, vous pouvez la choisir pour des raisons strictement nationales, étant donné que, de toute façon, vous allez nuire à l'Europe. C'est réussi. Si vous voulez nuire à l'Europe, aucun problème. Vous avez 30 listes, ou en tout
c'est
cas 20
facile.
Sur lesquelles vous pouvez voter et vous en donner à cœur joie. Mais si vous ne voulez pas nuire à l'Europe, et si vous ne voulez pas que l'Europe vous nuise, il faut faire un vote européen utile. On en était arrivé à se dire que, compte tenu de ce qui va se passer, pousser des populistes, perdre la majorité automatique des deux grands partis européens, il faut que je vote, si je veux que l'Europe progresse, il faut que je vote pour une liste pro-européenne qui va être dans un groupe qui compte. Or, il y a... et qui va avoir un nombre d'élus suffisant. Or, il y a trois groupes dans lesquels il peut y avoir un nombre d'élus suffisant pour que ça pèse. Le groupe PPE, parce que c'est celui qui sera très probablement en tête. Ça, si c'est ça, il faut que je vote républicain. Le groupe des Verts, parce que comme il va falloir trouver un troisième partenaire ou faire des arbitrages dans les votes, le groupe des Verts va compter. Ou le groupe central, modifié ou pas, qui aujourd'hui s'appelle ADLE. Où va aller En marche, direct tel qu'il est, ou en le renouvelant, on ne sait pas encore. Et à ce moment-là, il faut que je vote La République en marche. Mais entre ces trois-là, comment je choisis? Vous avez promis de répondre, Frédéric Dabi. Je parie que vous allez vous débiner.
Ah ben merci de cette promesse. On oublie aussi l'UDI, alors qui réalise un score d'attention de vote très faible dans notre pays, mais qui pourrait être rattaché à un groupe centriste qui peut
mais
peser.
Non, on peut pas. Vous avez rien compris.
Également,
mais si
j'ai compris.
J'ai dit qu'il fallait qu'ils aient un nombre suffisant d'élus.
Oui,
UDI mais il peut pas avoir 10-15 élus.
Il pourrait peut-être en janter des 5. Mais
je note que Frédéric Dabi vote UDI, mais que ce n'est pas le sujet.
Je suis sur une logique européenne. Oui. Il y a des partis centristes qui feront des meilleurs scores en Europe
mais
que
je
l'UDI
vous dis
en France.
Que si je veux que la France pèse dans une Europe qui pèse, je dois voter pour des gens qui auront des nombres d'élus suffisants dans un groupe qui compte.
Oui,
donc
fait.
Gardez vos sympathies pour vous. Et
Olivier, vous n'êtes pas sérieux.
Mais je blague.
Ah bah j'espère.
Mais vous aussi vous blaguez quand vous dites que votre UDI est un vote européen.
Non, je dis que le vote UDI est un vote pro-européen également.
Mais pas utile. Donc restez dans ma logique si vous voulez bien.
La logique de vote utile n'est pas une logique mobilisée systématiquement par les électeurs français, et encore moins dans une élection européenne. Encore moins.
Mais elle ne l'est pas assez, Frédéric.
Mais pas du tout, même.
Donc, vous ne répondez pas à ma question comme j'avais prévu.
Parce qu'elle est compliquée à transposer dans un cadre hexagonal français, où malgré tout, et on le voit tous les jours dans notre enquête quotidienne, il y a des logiques de vote sanction, il y a des logiques de vote d'étiquette partisane. Votre raisonnement, et je vous l'ai dit pendant la publicité, donc je le redis devant nos auditeurs et auditrices, se tient intellectuellement, mais opère de manière très marginale du côté des électeurs français. Alors, j'en suis désolé.
Bon, d'accord. Alors peut-être que Marion va bien vouloir venir sur le tout petit îlot de raisons sur lequel je reste accroché pour mon vote utile européen. Vous auriez une clé à me donner pour choisir entre les trois?
Disons que par élimination, quand ce que j'ai lu par exemple du colloque organisé par Valeurs Actuelles qui réunissait la tête de liste des Républicains, Bellamy, aux côtés de Philippe Devilliers, aux côtés de, je crois qu'il y avait Zemmour aussi, il y avait Houellebecq. C'est une illustration comme une autre du fait que le groupe Les Républicains n'est pas totalement clair vis-à-vis de son sentiment pro-européen. On l'a vu aussi avec le groupe de Viktor Orban, le parti de Viktor Orban qui est enfin suspendu, mais enfin qui a été...
Ça crée des divisions.
Il y a un chapitre absolument passionnant dans votre livre, quand vous allez retourner voir Viktor Orban, son ministre de la Justice que vous aviez connu 20 ans, ans avant, qui avait été votre patron, et vous nous racontez l'incroyable métamorphose de Orban,
c'est
passionnant. Alors, donc, on progresse. Il m'en reste plus
je veux bien qu'on fasse une émission sur mon livre, ça me va très bien.
Non, je dis ça au passage, parce que c'est vrai que c'était lié au nom que vous venez de prononcer. Alors, ici, il m'en reste deux, comment je fais pour choisir?
Donc, si vous en reste deux, et ben ça vous regarde, cher Olivier.
Ah, d'accord. Bon, alors,
disons qu'il y a un groupe plus gros que l'autre, c'est
voilà,
sûr.
Voilà, très bien. Bon, alors, on a un tout petit peu avancé. Alors, maintenant, on vient à une question absolument fondamentale, même si on a commencé à l'esquisser plus ou moins ouvertement dans ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est pourquoi cette campagne est si peu européenne. Et moi, j'ai une thèse à proposer, que cette campagne est si peu européenne à cause de ce couple qui est le cœur, le sel de nos émissions depuis tant d'années, média-politique. C'est une fabrication du cercle média-politique qui a déseuropéisé, empêché cette campagne d'être européenne. Et je vais confronter cette thèse avec chance, je suppose, d'être un peu soutenu par Marion Van Rentergem et d'être contredit par Frédéric Dabi dans quelques instants.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Le directeur général adjoint de l'Institut de sondage l'IFOP, Frédéric Dabi, et la journaliste Marion Van Rentergem sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Question, pourquoi est-ce que la campagne est aussi peu européenne? Réponse, à cause du couple infernal médias et politique qui ont fabriqué ça ensemble. Comment? D'un côté, aussi bien Macron que Le Pen ne cessent de transformer cette campagne en référendum pour ou contre Macron avec un seul enjeu, quelle des deux listes arrivera en tête? De l'autre, que font les sondeurs? et Frédéric Dabi en tête de ligne, lui qui est un des meilleurs d'entre eux. Il nous fabrique des Rolling tous les jours pour nous dire « Ça y est, il a doublé, ils sont égaux, plus 0,5, moins 0,5, non, juste pareil, ah, on ne sait pas, incertitude, dans la marge d'erreur. » Et que font les médias? Ils reprennent et ils reprennent et ils reprennent. Donc le seul enjeu, c'est de savoir qui arrivera en tête entre les deux. Or, c'est un enjeu qui n'a aucun intérêt, aucune conséquence européenne, zéro de chez zéro. Ça ne compte en rien sur la réalité de ce que sera l'Europe demain. Et d'un. Deuxièmement, c'est un enjeu totalement grotesque de parler de référendum, parce qu'il est totalement évident que si la liste En Marche arrive seconde, Macron ne démissionnera pas.
Bien sûr.
Et il est évident d'ailleurs que Le Pen n'a même pas proposé, elle, de démissionner si elle arrivait seconde, ce qui serait pourtant dans la logique de sa réponse à « il doit démissionner si jamais il n'est pas en tête ». Alors ça va produire des effets, évidemment, parce que le système médiapolitique, même quand il est totalement incohérent, quand il dit n'importe quoi, quand il se passionne sur les trucs, ça finit par produire de l'effet. Et certainement, le Front National se sentira mieux si la liste Rassemblement National arrive en tête, et l'autre moins bien. Mais comment est-ce qu'on peut, à ce point-là, passer 90% de la campagne sur un enjeu inexistant, artificiel, fabriqué par le couple médiapolitique? Frédéric Dabi, réponse après le réquisitoire.
Voilà, beau réquisitoire que je partage assez largement, sauf la partie sur la présentation d'Heroing, bien sûr, mais bon, je n'en dirai pas plus. Non, c'est vrai que c'est dommage de parler aussi peu d'Europe dans un contexte où, malgré un climat français majoritairement eurosceptique, hein, le vote du 29 mai 2005 du référendum n'a jamais été une parenthèse, et systématiquement, lorsqu'on repropose ce type de référendum, les Français sont plutôt sur une logique de critique vis-à-vis de l'Europe. Mais il y a une prise de conscience qui s'est opérée ces dernières années. Les Français, même les eurosceptiques, même des électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, ont pris conscience que la France est de moins en moins le cadre hexagonal et de moins en moins le cadre des solutions sur des grands sujets qui les passionnent. L'environnement, la sécurité, les questions économiques, le cadre européen et le cadre des solutions. Les Français y croient, et la phrase de François Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012, l'Europe n'est pas le problème, l'Europe est la solution, les Français y croient. Mais face à ça, oui, il y a le statut des élections européennes. On en parlait tout à l'heure avec Patrick Cohen, qui a récemment remontré le débat de 79 avec quatre géants, Simone Veil, Mitterrand, Marchais et Jacques Chirac. Cette élection n'a jamais trouvé sa place parce qu'elle s'inscrit comme un scrutin intermédiaire d'un quinquennat, d'un septennat, ou l'activation d'un vote sanction, d'un vote de soutien. Là, le contexte de présidentialisation de notre monarchie républicaine fait qu'on va se polariser sur des sujets de politique intérieure. Il y a quand même une campagne officielle. Il va quand même avoir des débats les deux dernières semaines qui peut-être vont permettre de parler d'Europe.
Marion Van den Kerbeek.
Je pense que la classe politique récolte ce qu'elle a semé, la classe médiatique aussi. Ça fait des années, des décennies qu'on nous bassine avec un dénigrement permanent de l'Union européenne pour des raisons purement politicardes et cyniques. C'est-à-dire que les dirigeants politiques, les uns après les autres, en France, mais aussi, on l'a vu encore plus largement au Royaume-Uni, se défaussent systématiquement de leurs propres erreurs et errements et ratages sur le dos de l'Union européenne de manière totalement fausse, mensongère. Et quand ça les arrange, c'est grâce à eux. Quand ça ne les arrange pas, c'est de la faute de l'Europe. Et ils ont vraiment introduit, d'année en année, depuis des décennies. Alors, il y a eu la période de l'après-guerre où on était pro-européen parce qu'on était bien content que la paix soit arrivée. Maintenant, on a un peu oublié que c'est grâce à l'Union européenne qu'on a acquis, c'est quand même pas la moindre des choses, la paix. On croit que c'est fait et que c'est acquis, mais pas du tout. C'est une création de longue haleine, difficile, fragile, et on voit aujourd'hui à quel point ça pourrait tout à fait se briser de nouveau. Donc les gens n'ont pas de mémoire historique, et en plus il y a eu ce travail de sape systématique des médias et des politiques pour des raisons qui les arrangent. Et l'Europe ennuie, il y a un discrédit politique de l'Europe qui est inversement proportionnelle à la réussite économique et sociale de l'Union européenne. On est quand même dans une espèce d'univers de mensonges, et je trouve que les politiques sont fautifs. Alors Macron, en fait, est le seul qui a essayé. C'est quand même la première fois qu'un président de la République, un candidat à la présidence de la République, fait campagne uniquement sur la question européenne. C'est inouï, quoi. C'est la première fois. Mais pourquoi il est obligé de le faire ? C'est parce que les autres ont failli d'année en année. Et je trouve qu'il y a un défaut pédagogique. C'est quand même facile de rappeler les évidences que j'ai rappelées tout à l'heure sur le fait que c'est le continent, l'ensemble régional le moins inégalitaire du monde. C'est quand même pas rien. Oui. Pourquoi personne ne le dit ? Pourquoi ?
Bah, notamment parce que, en vérité, la question européenne fracture tous les partis politiques. Et que comme c'est un thème sur lequel ils ne peuvent pas s'accorder, ils préfèrent, sauf En Marche, ils préfèrent le mettre sous le... Sauf En Marche et dans une certaine mesure Les Verts, mais tous les autres. C'est pour ça qu'ils préfèrent en général le mettre sous le tapis. Et on va voir pourtant que des voix s'élèvent, mais pas en France, même si c'est dans les journaux français. Je vous raconte ça dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et aujourd'hui, Olivier, vous recevez Marion Van Rentergem, journaliste et auteur de Mon Europe, Je t'aime moi non plus chez Stock, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint dans l'Institut de sondage l'IFOP.
J'ajoute d'ailleurs qu'en sous-titre de l'ouvrage de Marion Van Rentergem, il est écrit 1989-2019, parce que aussi bien le grand chapitre d'introduction que le grand chapitre de conclusion partent de la comparaison d'avec il y a 30 ans et c'est fort stimulant pour l'esprit. Je vous le recommande donc. Alors, nous en étions exactement au point suivant. Personne ne fait une campagne européenne et d'ailleurs aucun dirigeant politique sur le continent, dans l'Union européenne, ne prend vraiment le flambeau européen pour le porter plus loin. Aucun, sauf un. Écoutez.
Je pense que le président est venu saluer ceux qui partagent avec lui cette question si importante. Est-ce qu'on laisse se défaire l'Europe, se disloquer l'Europe au moment le plus dangereux de l'histoire du monde ? Ou bien est-ce qu'au contraire, on décide de souder tous ceux qui veulent la défendre, la sauver et la faire avancer ? Dans l'ensemble des pays européens, le président de la République française est le seul à porter une vision vitale de l'existence de l'Europe et de sa force.
C'était, vous avez reconnu la voix de François Bayrou, président du Modem, à la sortie de la réunion de direction de campagne ce 7 mai, à laquelle Emmanuel Macron s'était joint. Et j'ai trouvé assez étonnant que, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, s'il l'a fait consciemment, que François Bayrou insiste sur la solitude d'Emmanuel Macron par rapport à ses homologues étrangers qui sont tous plutôt en retrait. Solitude que je compare avec, et silence que je compare avec ce qui se passe dans nos médias chez les intellectuels. Je note qu'il n'y a pas un intellectuel français qui soit venu écrire un article, faire une grande proposition, exprimer une parole publique forte sur la question européenne, alors qu'il se prononce sur ci, sur ça, et j'en passe, et des meilleurs. Il y a à l'exception Bernard-Henri Lévy, qui fait la promotion de lui-même, comme d'habitude, à travers l'Europe, et qui, au moins, est sur le sujet. Mais sinon, rien. Et il a fallu que ce soit des intellectuels étrangers, qui, par exemple, dans Le Monde, il y a une semaine, sorti samedi dernier, daté dimanche, lundi, c'est un politologue bulgare, qui a écrit un grand texte, on fait exactement donner une grande interview dans laquelle on peut lire ce qui fait écho à votre livre, Marion. L'Europe s'est construite dans la peur du passé, l'Europe aujourd'hui a peur de l'avenir. Et sinon, c'est un romancier espagnol, Antonio Muñez Molina, dans la même édition du Monde, qui fait un grand papier sur l'incroyable importance de l'Europe et sur la passion européenne. Il reprend le même mot que vous aviez tout à l'heure et il explique que c'est ça aussi qui manque chez ceux qui aujourd'hui restent pro-européens, c'est d'y mettre la passion nécessaire. D'où ma question, en revenant, non pas sur le silence des intellectuels français, mais sur cette bascule, l'Europe s'est construite dans la peur du passé, aujourd'hui elle a peur de l'avenir. Est-ce que le fond du problème ne vient pas de là, et autrement dit ne nous dépasse pas, parce qu'on trouve la même chose bien au-delà de l'Europe, c'est que sont nées de nouvelles peurs du terrorisme islamique incontrôlé, d'immigration massive, de dérèglement climatique, qui sont des peurs qui fabriquent du rétrécissement sur soi. Marion Van Rentergem.
Oui, pour vous parliez des 30 ans, c'est vrai que c'est un peu le thème récurrent de mon livre qui est fait à partir de mes voyages en 30 ans d'Europe. C'est une sorte comme ça, de tour personnel qui rejoint un cycle politique, ce cycle des 30 ans de 1989 à aujourd'hui, à travers des personnages différents. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, mon interrogation, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre l'enthousiasme démesuré qu'on avait et le sentiment que l'avènement des démocraties, de l'ère démocratique était arrivé pour tout le monde, que, comme dit Fukuyama, c'était la fin de l'histoire, c'était enfin, voilà, l'Europe était réunie, l'Allemagne était réunie, le communisme, le totalitarisme, le deuxième totalitarisme était écrasé et enfin on arrivait à une démocratie libérale et représentative pour tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30 années pour en arriver à ça, un repli nationaliste assez général parce que voilà, en France, comme on est très franchouillard, on met tout sur le dos de Macron, etc. Mais Macron est une goutte d'eau dans un ensemble. Hein. Il est ce qui lui arrive aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur lui et les défis auxquels il est confronté et la détestation dont il fait l'objet est assez unanime chez toutes les personnes, tous les dirigeants plus ou moins centristes, centre-gauche, centre-droite, les sociaux démocrates et chrétiens conservateurs aujourd'hui. Donc il y a un phénomène totalement général avec l'arrivée de leaders populistes nationalistes. Et c'est vrai que pour moi, il y a eu des événements. Il y a eu la crise financière de 2008 a beaucoup joué sur le populisme parce qu'elle a créé un fossé entre les plus riches et les plus pauvres. C'était facteur d'une croissance d'inégalité. Il y a eu ensuite la crise de 2005, la crise des migrants plutôt de 2015. Qui a ressuscité des fantasmes et des peurs. Mais pour moi, plus profondément, il y a ce long cycle, ce long travail de sape depuis 1989 à aujourd'hui qui relève ce mot que j'emploie, qui revient souvent, c'est le ressentiment. Il y a une forme de désillusion, de ressentiment qui vient très particulièrement des pays d'Europe centrale par rapport à l'ancien joug soviétique par rapport à nous, les vieilles démocraties qui avons été du bon côté du mur, mais ce ressentiment fait écho aussi chez nous. Et puis il y a la mondialisation, évidemment, qui a brassé tout ça de manière désordonnée et chaotique.
Et pendant ce temps-là, il y a un grand chef nationaliste populiste qui profite magistralement de tout ça, qui s'appelle Donald Trump. Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement à l'Institut Montaigne, et qui scrute pour nous les médias internationaux, a repéré sur CNBC, à l'occasion de la reprise des guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine déclenchées par Trump, qu'il avait beaucoup surpris de gens à Wall Street dimanche dernier en annonçant que les tarifs américains augmenteraient de 25% vendredi, à la lumière des tentatives des Chinois de renégocier les termes de l'accord sur les droits de douane des marchandises. La Chine a répondu mercredi en promettant d'exercer des représailles contre les États-Unis si Washington concrétisait cette menace. Et pour calmer les tensions, Trump a déclaré avoir reçu, je cite, « une très belle lettre » du président Xi Jinping permettant de réouvrir les discussions. Elle demandait aux deux pays de travailler ensemble pour résoudre leurs différends. Alors est-ce que Trump y est allé un peu vite dans sa tentative de rassurer tout le monde ? Pour Jane Moose de CNN, dans une vidéo postée, c'est une expression qu'il utilise très souvent. Par le passé, il a dit de Kim Jong-un, il m'écrit de belles lettres et aussi de grandes lettres. Et il m'a écrit deux des plus belles lettres, c'est une œuvre d'art. Et donc, Trump continue son petit jeu d'alternance, de menaces d'un côté, de menaces effectives, des mesures, et d'autre part, de tweets sur les jolies lettres. Et il reste... Et il devient de plus en plus populaire. Donc ce mélange de pitrerie et de repli nationaliste est très très profitable.
Alors il est populaire, et c'est vrai que même depuis le début de son mandat, malgré des chutes dans les enquêtes d'opinion américaines, il a toujours gardé son socle.
Il a toujours gardé son socle. Mais
l'image extérieure des États-Unis s'est dégradée.
Et voilà. Et vous allez nous expliquer que pour lui ça n'a aucune importance.
Exactement.
C'est ce que je pense dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi vos deux invités, la journaliste Marion Van Runtergem et le directeur général adjoint de l'Institut de sondage, l'IFOP.
J'ai un vrai problème parce qu'il me reste à 2 minutes 3 maximum avant de lancer la chanson et mes invités ne rêvent que d'une chose, c'est de parler de la chanson. Mais quand même, d'un mot, ils vont nous dire quelque chose, c'est que comme pour la première fois depuis des mois, je ne vois Gilets jaunes sur aucune des chaînes infos, là, c'est quand même un grand, grand moment dans l'histoire de notre pays. Enfin. C'est une toute première. C'est la fin, les Gilets jaunes, Frédéric Dabi, en 30 secondes?
Non, ce n'est pas la fin des revendications des Gilets jaunes. La crainte du déclassement, la focalisation sur le poids d'achat. Le mouvement a... Il y a un débouché électoral dans quelques semaines et des listes qui se disputent oui. Le soutien des jeunes. Pour l'instant, c'est un mouvement arrêté, mais rien ne dit qu'il ne se reproduira pas.
Bon, arrêté, mais rien ne dit qu'il ne se reproduira pas.
les Gilets jaunes, mais moi, ce que je reproche aux Gilets jaunes, dont je partage et comprends, et j'ai plein de sympathie pour leurs revendications initiales, évidemment, c'est que tout la haine, la violence, le racisme, l'antisémitisme, oui. Je n'ai jamais entendu collectivement les Gilets jaunes s'en indigner.
Et c'est même si les Français ont systématiquement opéré une distinction entre le mouvement et ses revendications initiales et ses actes scandaleux.
De fait, ils ne se sont jamais désolidarisés de cette
violence. Dans les faits, dans
violence.
Les perceptions, il y a eu cette dissociation.
La chanson... Marion van Rentergem, vous l'évoquez à la fin de votre livre, si je ne me trompe pas.
Oui.
Hein, vous dites
c'était
que
pas
vous,
prévu.
Vous dites que vous avez toujours adoré la chanson It's a Shame.
Mais non, mais ça m'a prise de court parce que j'étais en train de terminer mon livre et je suis très obsédée par les chansons. Moi, j'écoute tout le temps des chansons françaises, américaines, anglaises. Enfin, la variété est très importante dans ma vie.
Tous les samedis, du coup, c'est très bien. Oui.
Voilà. Et il se trouve que j'avais plutôt en tête de finir sur une chanson pas très marrante qui est pas très gaie, qui est celle de Barbara sur Göttingen. Ouais. Faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Ouais. Donc j'avais plutôt ça en tête. Et puis tout d'un coup, j'apprends par Twitter la mort du chanteur Marc Hollis, le chanteur du groupe Tok Tok. Donc on disait Tok Tok, on ne savait pas trop comment l'écrire, et on le prononçait Tok Tok. Et puis il a cette chanson qui était pour moi la plus géniale et la plus sublime des années 80, Such a Shame.
Such a Shame, alors on peut dédier Such a Shame à plein de choses. Hein. Sur les réseaux sociaux, il le dédierait.
C'est une honte.
À des gens
je trouvais que c'était une honte ce qui nous arrivait aujourd'hui.
Ils font que deux soldats français sont morts en allant les libérer. D'autres le dédieront. Le nombre de sujets pour It's a Shame, c'est une honte. Allez, on écoute la chanson. It's a Shame, c'est une honte. Alors, It's pas a Shame si vous ne faites pas écouter les millions, l'émission en podcast sur Europe 1.fr. It's juste petit, c'est juste dommage. C'est très facile. Europe 1.fr, l'émission en podcast, dites à vos amis, elle était passionnante. Même sur l'Europe, contrairement à ce qu'on fait croire. Et puis, on se retrouve samedi prochain. Et puis, il paraît qu'il faut que je fasse aussi de la pub pour ma série podcastique Les Présidents dans la Tourmente. C'est très facile à écouter et assez amusant. Justine, vous les avez écoutés déjà?
Bien sûr, Olivier.
Bon, parfait. Allez, à samedi prochain, tous.
Merci, Olivier Duhamel. À samedi prochain, c'était Mediapolis. Rendez-vous à 10h. Alors, bien sûr, votre samedi continue, comme d'habitude. À 11h pile, vous êtes invité à la table des bons vivants avec Laurent Mariotte.
Ah oui, super, Laurent Mariotte.
Bonjour, Laurent. C'est quoi le programme aujourd'hui?
Bonjour Justine, vous allez aimer, elles sont douces et fondantes. On vous emmène récolter les pommes de terre primeurs sur l'île de Noirmoutier. Nous allons aussi ce samedi nous intéresser à la cuisine de l'exil, celle qui permet de garder un lien avec son pays d'origine. Et puis, nous irons du côté de Marseille partager une bouillabaisse avec notre invité, le bon vivant Patrick Sébastien. A tout de suite Justine.
A tout de suite Laurent.